Tais-toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, j'aime pas, Julia.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ben ce maillot connerie cette fois si c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé même je l'éteins à tout jamais. Tu vas voir ce qu'elle va voir, si tu...
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, bonsoir. Et oui, il est 19h04, vous êtes sur la plus rebelle des radios, Radio Canu 102.2, et c'est l'heure du Canu Info pendant une heure. Pour commencer ce soir, on se lance à l'international et vous parlera du mandat d'arrêt et de la nouvelle audience pour Pinard Sélec.
On fera une petite pause bonne nouvelle avec des animaux en forme et des néonicotinoïdes interdits.
Ensuite, on va vous donner des nouvelles du Pérou.
Puis on ira du côté des États-Unis pour encore et toujours les violences policières.
Plus proche de nous, et on imagine que vous y étiez peut-être, on fera des retours sur la manif et les manifs d'hier.
On lira un petit communiqué pour une retraite radieuse des LGBTI.
Et puis, tant qu'à faire, après la musique, on reviendra un peu sur l'état de nos services publics.
Ensuite, on vous parlera de la 6e version déjà du guide d'autodéfense numérique qui vient de sortir.
On fera une petite brève sur Laurent Wauquiez qui s'insurge contre le gaspillage alimentaire.
Et pour finir sur une bonne nouvelle, on vous parlera de la cour d'appel qui annule la décision de censurer reflet.info.
Et comme d'habitude, évidemment, l'agenda et le ACAB. Et si vous avez des ACAB à nous proposer, n'hésitez pas à nous appeler à un numéro qui commence par 04
78 39 18 15.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et oui, on vous fait un medley de nos jingles pour voir si vous les avez bien tous suivis en 2022. Et dans ce medley, vous avez bien sûr reconnu le jingle international. Vous étiez aidé par le international. Vous pourrez tout ça réécouter en podcast sur notre blog de Canu Info, bien sûr, tout au long du week-end. Pour commencer, international, mais on parle d'une personne qui est en France depuis plusieurs années, Pinard Sélec. Ça fait 25 ans que la Turquie cherche à la condamner pour des attentats qu'elle n'a pas commis. Et 6 mois après l'annonce par voie de presse de l'annulation de l'acquittement, la décision de la Cour suprême a été enfin notifiée aux avocats et aux avocates de Pinard Sélec ce 6 janvier 2023 par la Cour d'assises d'Istanbul. 6 mois d'attente insupportable et de nouvelles tortures psychologiques pour Pinard Sélec se soldent par une parodie de justice. Pour comprendre, elle a été acquittée après plus de 20 ans de procès. Cet acquittement a été annulé et là, ça faisait plus de 6 mois qu'elle attendait la décision de la Cour suprême de Turquie. Pinar Selleck fait l'objet d'une mesure de mandat d'arrêt international, demandant son emprisonnement immédiat. Cette décision est prise par le tribunal criminel d'Istanbul, avant même que les juges de cette juridiction ne se soient prononcés lors d'une première audience qui, elle, est fixée au 31 mars de cette année. Alors, pour vous resituer un peu les faits, le 21 juin 2022, l'agence de presse publique turque a annoncé l'annulation par la Cour suprême de Turquie du quatrième acquittement de Pinar Selleck, prononcé le 19 décembre 2014 par le tribunal criminel d'Istanbul. Auparavant, Pinar Selleck avait effectivement comparu au cours de trois procédures criminelles qui ont toutes constaté son innocence au long des 25 années de persécution politico-judiciaire qu'elle continue à subir. Après l'avoir emprisonnée et torturée pour ses recherches sociologiques sur les Kurdes, le pouvoir turc a décidé de faire d'elle une terroriste, en fabriquant de toutes pièces les éléments voulus pour démontrer contre toute évidence la survenance d'un attentat, alors que tout établit que l'explosion du marché aux épices d'Istanbul en 1998 a été provoquée accidentellement. De telles mesures, ubuesques du point de vue du droit et particulièrement graves par leur portée et leurs conséquences sur Pinar Selleck, sont prises dans un contexte de restriction des libertés et de multiplication des violences par le pouvoir turc contre l'ensemble des minorités et des opposants et des opposantes politiques, en particulier contre les Kurdes, que ce soit en Turquie ou dans d'autres pays. Les élections prochaines en Turquie sont propices à toutes les diversions politiques et à toutes les manipulations. Il faut savoir que Pinar Selleck, elle est en France depuis plusieurs années, qu'actuellement elle est à Nice où elle donne des cours, elle se mobilise dans des collectifs de soutien aux migrants, migrantes. Et donc il y a beaucoup de collectifs de solidarité pour Pinar Selleck, il y en a eu à Lyon où elle a résidé plusieurs années, il y en a eu à Strasbourg et actuellement il y en a à Nice, mais du coup aussi à Lyon. Ces collectifs, avec Pinar Selleck, refusent que l'écrivaine et sociologue soient une fois de plus l'otage d'une politique inique qui se traduit par une véritable farce judiciaire. Il refuse également qu'elle soit la victime collatérale de la politique de complaisance des pays européens à l'égard du régime autoritaire et liberticide qui sévit en Turquie. Il demande à tous et toutes les parlementaires et responsables politiques qui ont témoigné ces derniers mois leur soutien à Pinar Selleck d'agir énergiquement auprès du gouvernement afin qu'il lui apporte concrètement toute la sécurité et la protection que l'État français doit à l'une de ses compatriotes. La nationalité française de Pinar Selleck ne suffit pas à la protéger. Fort du soutien de très nombreuses personnalités de la recherche et du monde intellectuel et de la culture, les collectifs de solidarité avec Pinar Selleck renouvellent au président de la République leur demande de soutien ferme et inconditionnel, ainsi qu'une protestation officielle auprès du pouvoir turc. Vous voyez, du coup, c'est la mobilisation autour d'une personne qui sévit une répression judiciaire depuis plus de 25 ans. C'est aussi une position plus collective pour lutter pour le droit des minorités et contre cette décision de la justice turque. Et il y a pour tout ça un appel du coup à étendre les mobilisations en soutien à toutes les victimes du pouvoir turc et à préparer des délégations nombreuses pour se rendre à Istanbul le 31 mars prochain pour exiger la vérité et la justice pour Pinar Selleck. Si vous tapez collectif de solidarité avec Pinar Selleck sur internet, vous retrouverez tous ces documents, tous ces textes, avec évidemment un mail de soutien que vous pouvez contacter pour rejoindre le collectif de solidarité le plus proche.
Et une petite pause avec des bonnes nouvelles. Alors, ça vaut jamais les mauvaises qu'on a, mais de temps en temps, il y en a quand même. Et donc, vous apprendrez dans la rubrique internationale, on va vous parler d'Antarctique, avec une colonie de manchots empereurs qui a été détectée, une nouvelle colonie, ce qui est plutôt pas une trop mauvaise nouvelle, en vrai, parce que c'est quand même une espèce en voie d'extinction bien dangereuse. Du coup, on est un petit peu content parce qu'on aime les manchots au Canu Info. Et plus sérieusement... C'est plutôt à l'échelle européenne que ça se joue, et ça c'est un peu plus d'importance. C'est hier la Cour de justice européenne qui a confirmé l'interdiction des néonicotinoïdes sous forme de semences enrobées. Alors ça, je serais pas capable de vous expliquer ce que c'est. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'en vrai, c'était déjà interdit depuis un moment, les néonicotinoïdes, par la législation européenne, mais que la France trouvait que finalement, elle avait bien le droit de faire une dérogation parce que, a priori, les betteraves rouges peuvent choper la jaunisse. Et du coup, mettre les néonicotinoïdes, ça protège les betteraves rouges de la jaunisse. Après que c'est aussi un produit qui bute les abeilles assez efficacement. Et du coup, évidemment, il y avait toujours deux camps, celui de de l'agro-industrie et des gens qui se et de l'autre côté celui des gens qui se préoccupent un peu peut-être de l'avenir de la planète et des espèces qui s'opposaient. Donc l'État français, on sait de quel côté il était, il renouvelait la dérogation systématiquement du coup depuis 3 ans. Sauf que là, bah du coup, c'est la Cour de justice européenne qui a dit en vrai les dérogations maintenant c'est interdit parce que d'habitude ils font des lois, mais on a le droit de pas les on a le droit de les contourner si on a envie. Et bah là, exceptionnellement, du coup, la Cour de justice s'est positionnée pour interdire les dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.
Et voilà pour les bonnes nouvelles. On va retourner du côté des mobilisations à l'international pour continuer à vous parler du Pérou. Les mobilisations et la répression qui se passent au Pérou depuis le 7 décembre sont très très peu couvertes en France. C'est difficile d'y trouver des informations, notamment quand on ne parle pas l'espagnol. Mais on vous en avait parlé déjà, on vous avait passé, je sais pas si vous vous souvenez, au premier Canu Info de vendredi de l'année, un reportage qui avait eu à Lyon le 4 janvier, en soutien du coup aux mobilisations péruviennes. Et du coup, on avait envie de continuer à vous donner des nouvelles de ce qui se passe là-bas avec ce qu'on a réussi à en comprendre. Et notamment parce qu'aujourd'hui, des manifestants et des manifestantes venus des Andes, qui réclament la démission de la présidente, ont investi la capitale. Et du coup, on va revenir sur cet événement d'aujourd'hui, peut-être pour vous refaire encore un petit contexte, pour vous dire que depuis le 7 décembre, des centaines de milliers de Péruviens et de Péruviennes manifestent dans les rues de la capitale et des provinces andines contre l'accession au pouvoir de Dina Boluarte suite à la destitution du président Pedro Castillo. Il et elle exigent de nouvelles élections, la fermeture du Parlement et la libération du président sortant placé en détention provisoire. Face aux manifestations, la répression policière est immédiate et meurtrière. Et dans la foulée, 2 provinces ont été placées sous l'état d'urgence. Comme je vous ai dit, c'est vraiment difficile d'avoir des informations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 30 personnes qui sont mortes suite à la répression policière. Et de ce qu'on a compris de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que du coup, les manifestants qui du coup luttent contre l'accession au pouvoir de Dina Boluarte sont entrés dans le centre historique de Lima sous les applaudissements, dans une cacophonie de sifflets et de chants. Ils disent défendre une cause juste contre un gouvernement sourd et indifférent à tous ces morts. C'était des dizaines de milliers de paysans et de paysannes, d'ouvriers et d'ouvrières, d'étudiants et d'étudiantes, venus pour la plupart des Andes, qui ont défilé pacifiquement. Beaucoup étaient revêtus du drapeau national rouge et blanc et scandaient « Dina renuncia ». Dina Boluarte, la présidente par intérim, démissionne. Alors, la ville s'était préparée à énormément de violence, redoutait la réaction de la police et des militaires. Il y avait un climat d'état d'urgence alors que les forces de sécurité tirent à balles réelles dans les Andes contre les manifestants et les manifestantes. C'est pas ce qui s'est passé à Lima aujourd'hui. Il y a eu des tirs de lacrymo pour empêcher les protestataires d'arriver au Congrès. Ça a fait, de ce qu'on est dans la presse, à mon avis, beaucoup plus, une 20aine de blessés. Il n'y a pas eu de mort a priori dans la capitale, contrairement dans le sud où il y a au moins une personne qui est morte suite à un tir dans l'abdomen. Ces personnes-là qui sont arrivées aujourd'hui à Lima, elles ont fait un énorme voyage pour certains manifestants jusqu'à 30 heures, effectué en camion ou en bus à travers la cordillère. Ils ont rencontré beaucoup d'obstacles, des policiers, des barrages de l'armée, des contrôles, mais ils ont réussi à arriver. Les revendications sont claires, qu'ils s'en aillent tous, parlementaires ou membres du gouvernement. Les protestataires demandent la convocation d'élections au plus vite pour un pays sans corruption, pour un congrès qui me représente, peut-on lire sur les banderoles. Ils exigent des solutions aux inégalités économiques et sociales abyssales dont pâtissent les indigènes, souvent les plus pauvres du Pérou. Les manifestants veulent aussi un gouvernement transitoire qui convoque une assemblée constituante. On peut par exemple entendre « Nous avons voté pour un gouvernement de gauche qui a été élu, hein, Pedro Castillo. Dina nous a trahis en faisant alliance avec la droite. Cela fait 200 ans qu'un petit groupe contrôle le pays. Nous avons des députés qui n'ont parfois aucune qualification et qui gagnent l'équivalent de 3500 euros. Quand un docteur touche, ce que j'arrive à calculer, c'est 500 euros. » Le Congrès, avec ses parlementaires corrompus qui rivalisent d'incompétence et d'affairisme, est loin de l'institution la plus haïe, et de loin l'institution la plus haïe du pays. Alors, il faut quand même savoir qu'il y avait 12 000 policiers, hein, qui quadrillaient juste le centre-ville. Les hôpitaux s'étaient déclarés en alerte rouge de peur des affrontements. Les accès au centre de la place Sainte-Martin avaient été bloqués par des barrières de sécurité. Dans l'après-midi, des camions de l'armée et des tanks ont été déployés dans plusieurs rues. Et du coup, voilà, pour l'instant, avant d'une 20aine de blessés. Tout ça, ça n'a pas l'air de changer la position de la présidente Dina Boluarte, qui ne reconnaît aucune responsabilité ni dans les morts suite aux violences policières, ni qui n'a pas envie de partir visiblement. Il faut savoir qu'au même moment, du coup, d'autres affrontements avaient lieu dans plusieurs villes au sud du pays. Alors, je ne sais pas si je vais bien les prononcer, mais à Arequipa, à Cuzco et à Puno. La répression y a été beaucoup plus violente qu'à Lima. Mercredi et jeudi matin, 3 personnes ont été tuées dans le sud, toutes par balles. À Macusani, dans la région de Puno, un commissariat a été incendié, ainsi que le siège du pouvoir judiciaire local après la mort d'une manifestante. À Lima, dans les cortèges, certains et certaines défilent avec des pancartes à l'effigie des manifestants tués. Alors là, du coup, Le Monde, la Notre Source, ce serait 44 au total. Le sang versé ne sera jamais oublié. Combien d'enfants morts ? Entonnent d'autres groupes avant de reprendre le chant en Aymara. Ces derniers jours, plusieurs enquêtes de médias indépendants ont démontré que les tirs des policiers visaient principalement les thorax et l'abdomen et que la répression était particulièrement forte contre les manifestants Quechua et Aymara du sud du pays. Jeudi soir, donc hier soir, la présidente Dina Boluarte a pris la parole entourée de son cabinet ministériel. Toujours sourde aux revendications, elle a assuré que son gouvernement était déterminé et plus uni que jamais. Elle a, je continue à la citer, salué le détachement irréprochable de la police. On vient de parler de 44 morts. Ce sont nos héros nationaux, a lancé le Premier ministre Alberto Otarola. L'exécutif a condamné les tentatives de prise de 3 aéroports jeudi, ceux d'Arequipa, Cusco et Juliaca, dénonçant des actes prémédités coordonnés. Le gouvernement a promis des condamnations sévères pour ceux qui veulent saboter l'état de droit. Il faut quand même savoir que les manifestants et les manifestantes ne comptent pas quitter la ville. Beaucoup ont été accueillis au sein de campus universitaires, notamment celui de l'Université nationale principale de San Carlos, où tout au long de la journée, des étudiants et des étudiantes ont reçu des dons, nourriture, eau, mais aussi matelas, tentes, couvertures. Dans la soirée d'hier, un incendie dont l'origine est encore inconnue s'est propagé dans les immeubles proches de la place Sainte-Martine, ravageant plusieurs édifices coloniaux. Les manifestants se sont déplacés vers d'autres quartiers où ils sont restés jusqu'au milieu de la nuit. Voilà, donc on en saura plus dans les prochains jours pour dire que cette mobilisation, du coup, elle s'intensifie, tout comme la répression s'intensifie et qu'il y a encore peu et de visibilité au niveau international et encore moins de prise de position au niveau international. On peut quand même rappeler qu'au sein du Pérou, depuis le début et comme à l'accoutumée, les centaines de milliers de manifestants et manifestantes ne cessent d'être stigmatisés, d'être qualifiés de terroristes ou de vandales par des membres du gouvernement péruvien et du Congrès, des représentants de l'armée et des médias nationaux. Rappelons que les manifestants et les manifestantes sont membres de communautés indigènes, de syndicats, de partis politiques, des associations de citoyens et de citoyennes, de travailleurs et de travailleuses de toutes les professions, de groupes de femmes et de personnes mineures, enfin en gros qu'il y a plein de gens. J'espère qu'on continuera à avoir des informations, à vous en tenir. C'est vraiment pas rien ce qui se passe, c'est un état... j'en sais rien comment dire en fait. En tout cas, une mobilisation qu'on voit dans peu de pays contre un gouvernement dont on ne reconnaît pas la légitimité. Et par contre, toujours pareil, l'armée et les instances gouvernementales aux mains de personnes qui l'utilisent pour toujours plus de répression et de stigmatisation de populations minoritaires.
Et toujours à l'international, on va malheureusement compter un nouveau meurtre policier. Qui vient rappeler le racisme et la violence qui structurent cette institution. Donc, il s'appelait Keenan Anderson, 31 ans, professeur d'anglais, et il était connu pour ses positions contre la violence policière et le racisme au sein. Enfin, il était connu pour faire partie du mouvement Black Lives Matter. Il était en voyage à Los Angeles quand il a été victime d'un accident de voiture. En panique après cet accident, il a demandé de l'aide à des policiers qui étaient motorisés et qui arrivaient plus ou moins sur les lieux. Et en fait, ces derniers l'ont placé contre le trottoir pour le contrôler. Puis il a été plaqué au sol. Du fait qu'ils connaissent aussi les risques de ces pratiques, il a crié « Ils essayent de me faire une George Floyd », comme le rapporte The Guardian. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a un des policiers qui a placé son coude sur son cou, alors qu'il était allongé, pendant qu'il y en a un autre qui l'a tasé pendant environ 30 secondes, avant de faire une pause et de le retaser à nouveau pendant encore 5 secondes. Et les policiers, donc, en tout, ce sera 10 coups de taser. En fait, il décédera 4 heures plus tard à l'hôpital d'une crise cardiaque. Donc, assez immédiatement, le chef de la police, qui s'appelle Michael Moore, il a fait une conférence de presse avec les argumentaires de criminalisation des victimes, en fait, classiques, pour couvrir les responsables qui l'ont tué, ainsi que l'institution policière. Et en plus, une nécessité de se couvrir encore plus grande du fait que cette mort de Kinan survient juste après deux autres crimes racistes du début janvier. Donc, Takar Smith, 45 ans, et Oscar Sanchez, 35 ans, tous les deux tués par balle au début du mois. Donc ça, j'en sais pas plus sur les circonstances, mais en tout cas, il y a eu deux autres morts par la police en début du mois de janvier. Donc tout ça, c'est des arguments qui sont fallacieux, comme l'explique Mélina Abdullah, qui est cofondatrice de Black Lives Matter, et qui expliquait à The Guardian que le meurtre de Kinan était absolument horrible, que la police ne l'appelle pas un meurtre, mais un décès en détention. Il a toutefois quand même été tué par taser et que la police est en cause, mais qu'elle ne reconnaît pas du tout son tort. Donc c'est pas un cas isolé, les crimes policiers continuent, c'est encore un énième exemple du caractère structurel de la violence et du racisme de l'État déjà et de l'institution policière. Et à l'image de ce qu'a pu être le mouvement Black Lives Matter, seule une mobilisation par en bas permettra d'obtenir la vérité et la justice pour les victimes de violences policières. Donc là, je cite les propos du mouvement Black Lives Matter. Une lutte qui doit être menée par l'ensemble des personnes des organisations qui s'engagent dans ce combat, notamment aux États-Unis, mais comme ailleurs. Et il rappelle du même coup que les policiers ne peuvent en aucun cas représenter des alliés ou partager nos manifestations.
Et par ailleurs, ça arrive aujourd'hui, il y a Derek Chauvin, donc le type qui a buté George Floyd, qui a annoncé, je ne sais pas s'il l'a fait lui-même ou via son avocat, qu'il allait demander l'annulation de son procès parce qu'il était injuste, parce que le pauvre avait été victime d'une cabale, et du coup il reprend à son compte les mobilisations qui avaient suivi du coup le meurtre de George Floyd, pour défendre le fait que ça ne lui aurait pas garanti les conditions d'un procès équitable, etc., etc. On connaît toute la chanson. Malheureusement, ça continue.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et oui, info nationale, et comment ne pas vous parler de ces magnifiques manifs qui ont eu lieu hier. Forcément, on commence par la mobilisation contre cette énième réforme des retraites. Et oui, c'est reparti, malgré la défiance d'une très 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 large partie de la population, malgré l'opposition des syndicats et des organisations, de la jeunesse, blabla. La Première Ministre a confirmé le 11 janvier 2023 son intention de relever l'âge légal du départ en retraite à 64 ans, d'accélérer l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans et de supprimer les régimes spéciaux. Alors, si depuis 1993, des gouvernements se succèdent et les réformes s'enchaînent, Madame Elisabeth Borne entame une nouvelle phase. Son projet ne vise plus à contenir la hausse des dépenses, déjà sous contrôle au prix de la dégradation des pensions, mais à démanteler à peu près complètement l'une des plus formidables conquêtes sociales du XXe siècle, afin de rassurer les marchés et d'augmenter la main-d'œuvre disponible. Faut quand même savoir que le chef de l'État, il est quand même un peu fragilisé par une majorité parlementaire relative, mais il s'est dit « Ah, c'est pas grave, je vais pouvoir compter sur la droite » et sur les commentateurs toujours prêts à déployer leur pédagogie de la réforme et à s'insurger contre les prises d'otages. Alors, quand même, on peut se dire que la bataille sociale pourra trouver du souffle dans les souvenirs des victoires obtenues lors d'une autre tentative de réforme des retraites et de la sécurité en décembre 1995. N'hésitez pas à aller interroger les plus anciens et les plus anciennes pour vous donner du courage. Bref, tout ça pour vous dire qu'hier, il y avait une énorme manifestation. Alors, on y était, mais on était tellement pris dans cette foule dense, dans le fait de retrouver les copains dans les couleurs de tant de drapeaux différents qu'on n'a même pas pensé à sortir nos micros. On s'excuse, on va vous faire un petit résumé comme ça, pas oral. Je suis sûre que vous y étiez, que vos oreilles vibrent encore et que vous en passerez. On pouvait, à Lyon par exemple, il y avait environ 40 000 personnes, on pense, et c'est vraiment beaucoup. En tout cas, on s'est un peu tous et tous dit que ça faisait des années qu'on s'était pas vus aussi nombreux et nombreuses dans la rue. Il y avait plein de pancartes, on pouvait lire la retraite avant la retraite, bientôt en télétravail à l'EHPAD, la retraite à 64 ans, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd, blablabla. Tout le monde était là. Je sais pas trop s'il faut vous dire plus de choses que ça que c'est, sur cette manif, à part que c'était vraiment super de se sentir aussi nombreux et nombreuses, qu'on a pu arriver jusqu'à Bellecour, ce qui est déjà pas mal, et que quand même on a eu vent, mais après, on sait, peut pas vous donner beaucoup plus d'informations, mais qu'il y a eu 18 interpellations dans le Vieux-Lyon à la suite d'une agression commise contre une patrouille de la police municipale. Du coup, hein, on vous invite toujours à communiquer avec la Caisse de solidarité pour soutenir les inculpés. Mais bref, en dehors de Lyon, c'est quand même une mobilisation historique un peu partout. On peut lire que les chiffres du ministère de l'Intérieur, qu'on peut donc aisément grossir, c'est 1,12 million de citoyens. Donc on peut imaginer qu'il y avait quasiment 2 millions de personnes quand même dans la rue hier, c'est énorme, contre la réforme des retraites du gouvernement. Et que vous dire d'autre à part, eh ben super, la prochaine mobilisation nationale, elle est prévue mardi 31 janvier, donc ça laisse une dizaine de jours un peu pour s'organiser, et c'est là où on retrouve aussi toutes les autres formes d'organisation, s'organiser au sein de son travail, de voir comment est-ce qu'on peut faire grève en groupe, comment on peut s'entraider, savoir qu'on peut débrayer à partir d'une demi-heure, qu'on n'est pas obligé de faire grève toute la journée, savoir aussi qu'on peut participer aux caisses de grève pour soutenir d'autres secteurs en lutte qu'en soi-même, on ne peut pas la faire, savoir aussi que il y a sur la table quand même, et notamment du côté des raffineries, une idée de construire la grève reconductible, et que c'est une idée qui peut être reprise dans d'autres secteurs de métier. Par exemple, vous voyez, les raffineurs, ils se sont dit « Ah tiens, on va faire une grève en trois temps. Ok, on fait 24 heures de grève le 19, donc ça c'était hier. Nous, le 26, on va faire 48 heures de grève. » Et à partir du 6 février, on va faire 72 heures de grève. Et c'est à partir du 6 février que les raffineries, elles ont dit, elles ont proposé aux salariés la grève reconductible et l'arrêt des installations jusqu'à nouvel ordre. Et ça, du coup, ça laisse le temps de se tester dans la grève, de se croiser, d'avoir du temps à construire ensemble. Et avec cet horizon du 6 février, où là, la grève serait reconductible sans... Sans limite. Et du coup, voilà, donc faut savoir qu'il y a la date du 31 janvier pour la grosse manifestation interprofessionnelle, qui a quand même pour les raffineurs la date du 26 janvier, et qui peut avoir un nombre infini de dates, de rassemblements, d'assemblées, voilà, au sein de votre travail, ou si vous ne travaillez pas, au sein de votre quartier, il y a plein de moyens de se mobiliser, de parler de cette réforme aussi, pour préparer un rapport de force, employons les termes classiques, mais qui pèse sur le gouvernement. Bref, on lâche rien et je pense qu'on n'a pas fini de vous parler de ce mouvement contre les retraites 2023.
Et au CANU, alors on n'a pas eu le temps de décortiquer pourquoi cette réforme des retraites, elle sera particulièrement nuisible pour les femmes et les personnes LGBTI. Et du coup, on va lire un petit communiqué qui a été écrit à l'initiative du collectif Les Invertis, ainsi qu'avec un large panel d'organisations et personnalités LGBTI, comme par exemple Paul Preciado, Océan, Fatima Das, Abby Beach, etc., qui se mobilisent pour lutter contre la nouvelle réforme des retraites. Donc ils et elles disent qu'il nous faut recréer du dialogue et de la solidarité entre les générations pour participer à la transmission de notre histoire commune, de nos récits de vie et de nos pratiques militantes. Voici leur communiqué. Nous, personnalités et organisations LGBTI, nous opposons à la réforme des retraites qui vient d'être présentée par le gouvernement pour reporter l'âge de départ à 64 ans et accélérer le passage à 43 années afin de bénéficier d'une retraite à taux plein. Si cette réforme est appliquée, elle sera nuisible pour toutes et toutes, tous les futurs retraités. Elle sera particulièrement néfaste pour les LGBTI parce que nous sommes encore plus vulnérables que le reste de la population face à la vieillesse. En effet, le grand âge est souvent synonyme d'isolement et nous sommes beaucoup à ne pas avoir de soutien à cette étape de nos vies à cause du potentiel rejet des familles où nous sommes nés, mais aussi de la privation du droit de créer nos propres familles. Or, la famille est une structure d'appui primordiale au moment de la retraite, en particulier en cas de perte d'autonomie. Ses membres, quand ils ont le temps et l'argent, peuvent assister les plus âgés en les aidant à leur domicile, en les accueillant dans leur foyer ou en finançant l'hébergement en EHPAD. Mais la construction de nos familles a été prohibée pendant des générations avec l'inégalité de nos droits au mariage, à l'adoption et à la procréation et la stérilisation forcée des personnes trans pendant de nombreuses années. De nos jours, ces droits sont encore instables à cause des discriminations dans les procédures d'adoption ou les difficultés d'accès à la PMA, toujours interdites pour les personnes trans. Avec la nouvelle réforme des retraites, nous allons devoir travailler plus longtemps, ce qui dégradera nos conditions de santé, ou partir avant d'avoir toutes nos annuités, ce qui réduira nos pensions. Face à ces régressions, nous n'avons pas les mêmes possibilités de s'appuyer sur la solidarité familiale, ce qui nous fragilise davantage quand nous arrivons à la retraite. Le monde du travail a été et est toujours souvent un environnement hostile pour les LGBTI, QI+. Les discriminations persistent et peuvent influer tout au long de la vie sur notre situation professionnelle. Des études démontrent que les inégalités salariales subsistent pour celles et ceux qui font leur coming out en milieu professionnel et cela se répercute sur les montants de nos retraites. De l'orientation professionnelle en milieu scolaire aux évolutions de carrière, en passant par les difficultés d'accès à l'embauche, le parcours de vie des LGBTI est jalonné par les violences subies allant jusqu'à l'exclusion de l'emploi, avec des périodes de chômage qui impactent nos durées de cotisation. Les personnes vivant avec le VIH, les personnes trans ou les personnes racisées sont encore plus exposées à ces refus d'embauche, ruptures de carrière et difficultés d'évolution professionnelle. Une retraite à taux plein devient alors presque impossible et nous condamne souvent à nous contenter d'une pension à taux réduit. Les femmes sont fortement touchées, surtout si elles sont lesbiennes ou bisexuelles. En plus d'être moins bien payées, elles sont davantage concernées par les temps partiels et les pauses dans leur carrière. Leur retraite, déjà largement inférieure à celle des hommes, s'en verrait encore réduite si la réforme venait à passer. En outre, quand elles en ont eu la possibilité, elles ont quelquefois arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Tous ces paramètres fragilisent nombre de parcours professionnels, mais aussi l'espérance de vie, en bonne santé, entre guillemets, entraînant de fortes inégalités sociales au moment d'accéder à la retraite. La nouvelle réforme, si elle venait à être appliquée, renforcerait les effets délétères de ces mécanismes et viendrait accentuer notre précarité. La retraite est pourtant un stade indispensable de nos vies, tant de repos bien mérité après avoir tant travaillé. Elle n'est pas nécessairement une période d'inactivité. Beaucoup d'entre nous n'ont malheureusement pas pu y arriver du fait de la pandémie, de VIH ou SIDA, ou à cause du taux de suicide qui reste très élevé chez les LGBTI. Il reste donc tant à inventer sur les formes que peuvent prendre la retraite dans nos communautés. Beaucoup de retraités décident d'avoir un engagement bénévole et nous pouvons par exemple penser cette étape en s'investissant dans une association d'autosupport ou de lutte contre les discriminations. Par ailleurs, les représentations de personnes LGBTI âgées sont quasiment absentes de notre société. En vieillissant, nous sommes petit à petit invisibilisés et nous devons également nous questionner sur nos propres mécanismes internes qui amènent à cette situation. Il nous faut recréer du dialogue et de la solidarité entre les générations pour participer à la transmission de notre histoire commune, de nos récits de vie et de nos pratiques militantes. Tant d'actions sont à imaginer. Pour les réaliser, nous avons besoin d'une retraite en bonne santé, avec suffisamment d'argent pour la vivre dignement et en profiter. C'est pourquoi nous nous mobilisons parmi tous les salariés, étudiants, retraités et sans emploi, dans toutes les initiatives pour lutter contre cette nouvelle réforme des retraites, en commençant par les manifestations des 19 et 21 janvier, donc hier. En combattant toutes et tous ensemble, nous avons la capacité de faire reculer le gouvernement. Nous pourrions même aller plus loin en regagnant la retraite à 60 ans, avec 37,5 annuités, afin d'obtenir enfin une victoire et nous redonner espoir dans un avenir désirable. Donc ce communiqué, il est trouvable sur le blog de Mediapart et il a été signé par un paquet de monde, si vous voulez aller le revoir. On va faire une petite pause musicale. On va écouter un super groupe de musique que j'adore qui s'appelle Les Vulves Assassines.
À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite. c'est du soutien scolaire qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils ont des gueules à la mairie. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Cette super musique. Enfin, donc on parlait des retraites, on parlait de la réforme. En fait, on parlait aussi de, malheureusement, de la destruction du service public. Et on avait envie de, et ben, de lire un petit témoignage en fait d'une personne qui voit son quotidien, qui voit ses conditions de travail se désagréger, etc. C'est des petits témoignages qu'on a recueillis dans un journal qui s'appelle CQFD. Des camarades de Marseille, si je dis pas de bêtises. Ils ont tout un dossier qui s'appelle « L'État dynamite notre bien commun ». Et on va vous lire le récit d'une infirmière aux urgences du CHU de Toulouse. Et le titre, c'est « La droitisation de la société se ressent jusque dans l'hôpital ». Donc Rebecca est infirmière aux urgences du CHU de Toulouse depuis 5 ans. Elle pointe du doigt la dégradation de l'accès aux soins qui touche de façon particulièrement dure la psychiatrie et impacte les patients les plus précaires. Au CHU de Toulouse, dit-elle, j'ai eu de la chance. J'ai assez rapidement dépassé la case CDD pour devenir stagiaire puis titulaire de la fonction publique. Aujourd'hui, mes nouveaux collègues sont essentiellement embauchés en CDI. La direction avance que c'est moins précaire. Ce n'est pas faux évidemment, mais ça permet surtout d'embaucher moins de nouveaux fonctionnaires. C'est une attaque évidente contre ce statut qui reste bien plus avantageux, donne droit à la sécurité de l'emploi et à différentes primes. Ceci dit, dans mon service, les filles semblent encore parvenir à se faire titulariser assez facilement, mais il semble que ce ne soit déjà plus le cas partout. Dès mon arrivée, j'ai pu constater le manque de lits, de personnel. Depuis, l'accès aux soins s'est encore dégradé. C'est surprenant pour une agglomération de cette importance, mais Toulouse est un désert médical. Il peut être très long d'obtenir un rendez-vous chez le médecin, et les personnes qui n'en obtiennent pas se rabattent sur les urgences, ce qui aggrave encore plus la situation. Cette idée qu'on accepte tout le monde à l'hôpital public est fausse. On parle du manque chronique de moyens, mais je constate aussi les conséquences de la droitisation de la société qui se ressent jusque dans l'hôpital. Les valeurs entre guillemets du service public se perdent. J'entends de plus en plus de collègues reprendre ce discours médiatique qui prétend que les gens se déplacent pour rien aux urgences. Sauf que ce n'est pas vrai. Là où la situation est la plus terrible, c'est pour les personnes en grande précarité. Il y a quelques mois, un SDF d'une cinquantaine d'années est arrivé aux urgences. On lui a découvert un cancer du poumon. Habituellement, on envoie le patient en service pneumologie d'un autre hôpital pour une exploration fonctionnelle respiratoire et la mise en place d'un traitement. Mais là, le service en question l'a tout bonnement refusé. Étant sans logement, ce qui exclut de fait toute hospitalisation à domicile, il aurait occupé un lit trop longtemps à leurs yeux. C'était la première fois que je voyais ça. Heureusement, on a finalement trouvé une solution de secours. mais tout ça reste au bon vouloir du chef de service. Si on ne s'occupe pas de ces personnes en grande difficulté, mais qui va le faire ? Ils ne peuvent pas aller en clinique. Cette idée qu'on accepte tout le monde à l'hôpital est vraiment fausse. Il y a un tri qui est fait et ce sont les plus pauvres qui sont les premiers pénalisés. Le point noir, c'est la psychiatrie. Je vois de plus en plus de situations aberrantes où les soignants et soignantes des urgences psychiatriques sont obligés de refuser des patients qu'on doit accueillir chez nous. Sans compter le nombre de personnes qui devraient être hospitalisées et qu'on renvoie chez elles et eux, ou à la rue, faute de place. Une fois, on a gardé un patient en attente d'hospitalisation pendant une semaine pour finalement devoir le laisser sortir, comme si d'un coup, il ne présentait plus de risque suicidaire. Une psychiatre m'a récemment avoué qu'elle avait 20 patients, des cas graves, attendant pour un secteur fermé, c'est-à-dire une hospitalisation sous contrainte. Mais elle n'avait que deux places disponibles. Elle appelait tous les jours l'agence régionale de santé pour qu'ils ouvrent des places, sauf que rien ne bougeait. Là encore, ceux qui font les frais, ce sont les grands précaires, les sans-papiers, les gens qui n'ont rien pour se défendre, pas de famille pour pousser derrière et exiger une hospitalisation. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je vais bientôt quitter les urgences pour un autre service. Ça me touche trop. La situation est très dure alors que nous sommes un des rares services d'urgence en France, si ce n'est le seul, à avoir récemment gagné du personnel. 26 créations de postes en 3 ans, mais on les a arrachés ces postes. Fin 2019 et l'été dernier, on a mené des grèves dures entraînant la fermeture des urgences sur plusieurs jours. On n'a pas été trop soutenu par les médecins, mais 100% du personnel paramédical, infirmières et aides-soignantes, a suivi le mouvement. La direction a dû céder, mais nous le fait payer aujourd'hui. Clairement, elle veut éviter à tout prix qu'il y ait une troisième grève. Des sanctions disciplinaires ont été prononcées contre 10 de nos collègues. Donc voilà, c'était le petit témoignage d'une infirmière, mais il y en a d'autres. Il y a d'un pompier volontaire, un agent forestier, une conseillère Pôle emploi, etc., qui subissent tous de plein fouet les coupes budgétaires, le manque de moyens humains et le management super violent.
Et à la fois, dans ce qu'elle raconte, elle dit d'une part qu'en faisant la grève et en allant jouer le rapport de force, on peut gagner des trucs. Alors ça change pas l'état du service public, mais n'empêche qu'à l'échelle de son service, ça joue. Et surtout que quand il y a des gens qui sont sans papier, qui sont à la rue, en vrai, leurs droits sont jamais respectés. Et du coup, c'est aussi aux personnes qui ont un peu plus de droits et qui ont la capacité de venir rappeler au service public quelles sont leurs obligations. Et quand on les regarde droit dans les yeux en disant on sait que vous n'avez pas le choix, d'un coup il y a des choses qui se passent un peu mieux, que ce soit d'ailleurs avec les services d'urgence ou avec les préfectures. Quand on peut supporter ça, autant le faire, et parfois ça marche, voire souvent ça marche, mais il faut avoir le temps et des connaissances pour le faire. Et d'ailleurs, en parlant de connaissances, si vous voulez apprendre plein de trucs, enfin ça dépend ce que vous savez déjà, vous me direz, il y a la sixième version du guide d'autodéfense numérique qui est accessible en ligne gratuitement depuis, je pense, cette semaine ou la semaine précédente, et qui, on va le dire tout de suite comme ça c'est fait, sera disponible le 27 janvier en version papier aux éditions Time Party, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une espèce d'énorme bouquin. Alors ça fait un peu flipper quand on voit la première fois parce que c'est en très gros et ça parle d'ordinateur. Alors, soit on aime bien ça, généralement on a déjà lu des trucs, soit on n'aime pas trop et quand on tombe là-dessus, ça fait un peu flipper. Et à la fois, c'est quand même un bouquin qui rappelle un peu la réalité. C'est qu'aujourd'hui, les ordinateurs et Internet, c'est globalement partout autour de nous et dans nos quotidiens, ça prend une place de fou. Et ils reviennent sur cette fameuse phrase qu'on nous rappelle tout le temps. Ah, mais si vous avez rien à cacher, vous en foutez d'être traqué partout. Eux, ils rappellent, en fait, on a toutes et tous des choses à cacher à différents niveaux et on a même peut-être envie de cacher des trucs, même s'ils sont pas graves, pour que d'autres trucs puissent être mieux cachés. Donc, en gros, pour faire brièvement dedans, on vous expliquera alors des trucs un peu techniques sur comment ça marche vraiment d'un point de vue matériel, un ordinateur, etc., etc. Mais surtout, on vous donnera tout un tas de petits cas d'usage. Donc, vous voulez faire des choses plus ou moins discrètement, parce que vous voulez pas juste que n'importe quel GAFAM ou que soit au courant de tout ce que vous faites, ou que vous voulez pas que la police apprenne des trucs, ou que vous voulez pas qu'elle retrouve des trucs, que ce soit chez vous ou pas chez vous par ailleurs, ou vous voulez pas être retrouvé, et ben en fait il y a tout un tas de petites astuces qu'on vous donnera, alors de comment utiliser efficacement une clé USB ou effacer un disque dur comme il faut, à comment se promener sur internet avec le fameux Tor, comment ça marche déjà, de comprendre comment ça marche et comment l'utiliser. Alors c'est vachement important parce que mine de rien, c'est les trucs qui sont techniques et des fois on a l'impression que c'est réservé à des grands spécialistes qui connaissent tout, etc. Et finalement, si on prend pas le temps de se renseigner, soit on fait des conneries qui peuvent se mettre soi ou d'autres en danger, ou sans parler de danger, juste faire fonctionner ses données personnelles, personnellement, je trouve pas ça agréable. Et par ailleurs, c'est important aussi de comprendre du coup comment fonctionnent ces choses-là pour pouvoir utiliser un peu des mêmes modèles que la RDR, c'est-à-dire de bien connaître les objets ou les produits et de pouvoir mettre des systèmes de limitation des risques en place. Ils rappelleront bien tout au long du bouquin par ailleurs que le risque zéro, ça n'existe pas. Il faut juste se demander quel niveau de risque on encourt et quel niveau de protection on est prêt à mettre, parce que globalement, plus il y a de protection aussi, plus c'est chiant à utiliser au quotidien. Bref, si jamais vous intéressez à tout ça, et ben, il est super, il y a plein de trucs pour tous les niveaux, c'est-à-dire pour des gens qui débuteraient, qui auraient des petites notions d'informatique, ou pour des gens qui seraient quand même bien pointus sur le sujet. A priori, tout le monde y apprendra des trucs, à part les super, super experts. Et on conclura en précisant que si vous voulez chercher des trucs pour les téléphones portables, ben, c'est pas là. Eux, ils parlent que des ordinateurs et d'Internet. Pour votre téléphone portable, il faudrait d'autres gens compétents. Si jamais il y en a qui écoutent, qui prennent le temps de nous faire un bouquin comme ça, ça serait super.
Et après, on voulait faire une petite brève sur Laurent Wauquiez qui il s'insurge du gaspillage dans les cantines scolaires parce qu'il a envoyé un courrier à plein de parents d'élèves, enfin des parents de lycéens et lycéennes, bah, en disant qu'il était très engagé dans le gaspillage alimentaire, que ça le outre. parce que ça, voilà, c'est l'électricité, du gaz, de l'eau, etc. Et que bah, du coup, jeter des repas, bah, ça se fait pas, hein, et tout ça. Et ça avait un peu agacé un parent parce qu'il disait quand même, il me semble bien que Laurent Wauquiez, il avait organisé des dîners qui s'élevaient à moult argent.
600 000 ? Non.
50 000 euros. Bon, moi, je sais même pas qu'est-ce qu'on peut manger à tout ce prix-là, quand même. Je sais pas. Bah, là, ils disent des choses du style crème d'anguille, mousse de betterave, je sais pas quoi.
Ça n'a même pas l'air bon.
Mais voilà. En tout cas, des dîners au sommet. Enfin, voilà, il y avait toutes des enquêtes comme quoi c'était en plus de l'argent, de l'argent public, hein, pour régler des prestations de conseil, etc. Et du coup, merci pour l'engagement du gaspillage alimentaire, mais peut-être ce serait de l'argent qui serait intelligent de mettre ailleurs, quoi. Voilà.
Et en termes de gaspillage, il y a aussi un certain Drahi qui a fait gaspiller du temps à la justice. On vous en avait parlé, je me rappelle plus quand c'était en octobre dernier, voilà. Il y a Reflet.info qui avait publié des infos qu'ils avaient récupérées, on expliquera un peu comment après, sur Altice, donc, qui est le groupe de Patrick Drahi, et suite à quoi Drahi les avait attaqués en justice, et avec le même truc avait été utilisé contre Mediapart, sur couvert du secret des affaires, et du coup ça permet de contourner un peu le droit de la presse et finalement de censurer des journalistes. Donc là c'était quand même autrement plus grave, parce que quand même Reflet.info, ils avaient été interdits de publier a priori des trucs sur Drahi. Ça veut dire qu'au moment où c'est tombé, on leur a dit vous avez plus le droit d'écrire sur Altice et Patrick Drahi. Donc ça, on est quand même sur une censure préventive de la presse, qui est quand même un truc qui non seulement extrêmement dangereux et énerve particulièrement. Sauf que du coup, Reflet.info, ils sont quand même pas complètement débiles, et ils ont fait appel. Et donc jeudi dernier, donc jeudi 19, c'est la cour d'appel de Versailles qui a annulé la décision du tribunal de commerce de Nanterre, parce que du coup c'était passé par le tribunal de commerce. C'est ça, c'est toute l'astuce en fait, c'est d'aller chercher d'autres tribunaux, d'autres juridictions pour pouvoir contourner la loi. Alors on rappelle Reflet.info, en gros ils avaient récupéré plein de données qui avaient été prises par un groupe de pirates qui s'appelle Hive, qui les avait mis en ligne de façon à moitié cachée, et du coup on venait leur dire qu'ils faisaient du recel de données de piratage informatique. C'était un peu ça aussi une des entrées, en plus du fait de nuire au conseil des affaires, et du coup de mettre en danger la bonne santé financière de Altice, parce que c'est vrai que Drahi c'est un peu chaud pour lui quand même en ce moment, il a du mal à boucler les fins de mois. Bref, la cour d'appel, elle a repris toutes les entrées et tout ce pourquoi Reflet avait été condamné. Et en gros, ils ont tout annulé en disant, moi je suis pas juriste, mais il y avait, j'ai perdu le nom, le trouble manifestement illicite, il y avait de nuire au secret des affaires, il y avait le fait de faire du recel d'informations piratées, etc. Et en fait, tous les chefs d'inculpation ont été annulés par la cour d'appel, ce qui est quand même, malgré tout, une très bonne nouvelle. Et on peut aussi préciser que c'est ça, l'entraide et la solidarité, évidemment, ça marche marche au quotidien pour toutes et tous, mais qu'il y avait eu aussi un mouvement qui avait été fait avec Bastamag et Street Press, qui eux publiaient des infos qui étaient interdites par de Reflet.info, que Reflet.info avait pas le droit de publier. Et l'intérêt d'avoir une presse indépendante et diverse, c'est quand même aussi de pouvoir faire circuler comme ça. Ils ont pu bosser ensemble, et moi je trouve ça quand même vraiment super qu'on ait pu avoir ça, et de montrer de la solidarité vis-à-vis de leurs collègues qui sont peut-être pas tant des concurrents finalement, mais de se dire on fait le même boulot et le but c'est que l'information sorte, et de voir ces différents médias qui avaient bossé ensemble là-dessus, c'était quand même plutôt chouette.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
On va commencer l'agenda en vous parlant de... On a plein de trucs d'agenda, excusez-moi, je n'étais pas concentrée. En vous parlant d'un rassemblement qui va avoir lieu demain, un rassemblement festif contre les finances radioactives. Arrêtons de financer les armes nucléaires et donc retrouvons-nous demain, samedi 21 janvier, sur la place de la République à 14h pour une après-midi d'action et d'information. C'est vrai que leur tract est un peu sympa, ça donne envie d'y aller, il y a des petits « le saviez-vous » et tout. Par exemple, ils disent « le saviez-vous que votre banque, grâce à votre argent, participe à la fabrication du système d'armes nucléaires en finançant, via des prêts, des participations, des achats d'actions ?» Les banques et les institutions financières sont un chaînon clé de l'industrie des armes nucléaires. En désinvestissant, elles peuvent accélérer la stigmatisation et l'élimination de ces armes de destruction massive. Et on a même droit à des noms, par exemple BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Cette liste est bien sûr non exhaustive. Ont investi entre janvier 2020 et juillet 2022 plus de 35 milliards d'euros dans des sociétés comme Airbus, BAE Systems, Boeing, EADS, Leonardo, Naval Groups, Northrop Grumman, Safran, Thales, etc. Or, il faut savoir qu'il existe un traité, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui est entré en vigueur le 22 janvier 2021, dont l'article 1er interdit non seulement la production, la possession, la menace d'utilisation, mais également le financement des armes nucléaires. Donc depuis, toutes ces banques sont dans l'illégalité en n'appliquant pas le droit international. Alors pour que ce traité ne soit pas un énième traité comme ça, sur lequel qui n'a finalement aucun pouvoir, un rassemblement d'informations et de lutte contre les finances radioactives, le collectif ICANN France vous propose notamment d'écrire à votre chargé de clientèle ou le service en charge de la responsabilité sociétale des entreprises, le SRE. Si vous faites partie, par exemple, de BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, etc., pour leur faire savoir qu'ils sont dans l'illégalité.
Et on continue, alors ça c'est toujours demain, il y a la nuit du cinéma militant. Du coup c'est la 13e édition et vous retrouverez ça à la MJC du Vieux-Lyon. Au programme, il y aura 5 films en présence de leur réalisatrice pour une soirée d'échange autour de sujets d'actualité. Alors, pour faire un peu bref, c'est à partir de 16h et du coup vous pourrez voir En remontant les murs, donc il y a un film sur Marseille. Tu deviendras un homme, je vous lis que la première phrase, les hommes se sentent-ils victimes du patriarcat de Neva, j'ai oublié de citer la première réalisatrice, pardon, Neva Bonchera, et là, pour En remontant les murs, c'était Marie-Noëlle Battaglia. Il y a Grève au royaume des ordures, c'était sur, ça revient sur la grève, j'imagine, de Pizorno par l'Union syndicale solidaire. Depuis la nuit des temps de Jeanne Fosse et Clary Desmangeon, qui nous raconte les voix divergentes de 13 femmes qui racontent, interrogent ou critiquent avec autant de sérieux que d'humour les conditions d'accouchement en France. Je n'ai plus peur de la nuit de Sarah Guillemet et Leïla Porcher, qui suit deux femmes kurdes entre l'Iran et l'Irak. Et voilà, du coup, c'est à partir de 16h à la MJC du Vieux-Lyon. Soyez-y.
Et toujours demain, il y a un rassemblement contre la loi Darmanin. Donc c'est demain à 17h devant le CRA en soutien aux prisonnières et prisonniers parce que le gouvernement s'apprête à faire passer sa nouvelle loi raciste et xénophobe. Elle prévoit d'augmenter fortement les expulsions des étrangers et étrangères et de systématiser le recours à leur enfermement avec le projet déjà lancé de créer 3000 nouvelles places en CRA qui sont donc des centres de rétention administrative, en gros des prisons pour expulser les étrangers, et ce d'ici à 2027. Pour faire passer ses projets, Darmanin a notamment utilisé Lyon comme un terrain d'expérimentation, et on le voit quand on passe à la Guillotière. Suite à un emballement politico-médiatique raciste, et tout ça, ça a permis d'intensifier les rafles et la répression sur les personnes étrangères ou sans papier dans le quartier. Instrumentalisant la situation du quartier pour promouvoir son discours sécuritaire, il en a profité pour inaugurer le nouveau CRA qui a ouvert à Lyon-Saint-Exupéry depuis janvier 2022. Et il a a priori l'intention d'en construire d'autres. La situation dans les CRA est extrêmement violente. Les mauvais traitements infligés aux personnes y sont quotidiens et systématiques. Ils font partie de la répression. C'est pas des nouvelles places en CRA dont il y a besoin, mais c'est de mettre un terme à ce système d'enfermement et de discrimination sur les origines, la situation administrative ou la couleur de peau. Donc dans le cadre de l'appel à mobilisation nationale contre la loi Darmanin, 3 mois pour monter en puissance, lancé par les collectifs de la Marche des Solidarités, rendez-vous demain, ce samedi 21 à 17h devant le CRA, le deuxième, rue de Chypre à Colombier-Saunieu. C'est à côté de l'aéroport, on peut y aller en bus, en tram, etc. Vous pouvez trouver ces informations sur Rebellion. Abat les frontières et les CRA, liberté de circulation et papier pour tous et toutes.
Et on ne s'arrête pas puisque dimanche à 14h, place Bellecour, il y aura une manifestation de soutien au peuple kurde pour défendre le Kurdistan contre le terrorisme de Daesh et de la Turquie. On en a déjà un peu parlé précédemment. Mais du coup, rendez-vous dimanche à 14h, place Bellecour.
Et comme après ça, vous aurez faim, vous pourrez aller à Frites Against Borders, apéro de soutien au squat rue Sauvage de Calais. C'est assez aussi dimanche et c'est au Casdal à partir de 18h. Et le Casdal, on le répète, c'est un squat qui a ouvert il n'y a pas longtemps et surtout, vous le trouverez au 221 rue de Créqui à Lyon 3e.
Et le lundi, vous pourrez aller à la récolte de témoignages, enfin si vous voulez y participer, même qu'on a... peut-être une personne peut en parler mieux que moi, mais en tout cas c'est des ateliers révolutionnaires pour récolter des témoignages sur les récits pour une approche féminisme de l'engagement. Donc ça, pour y participer, c'est lundi de 18h à 21h au Bras Zéro. Et c'est où le Bras Zéro? C'est au Grand Zéro, à Vaux-en-Velin. Vous retrouverez toutes les informations sur Rebellion.
Ça va être super.
Ouais, super.
Et le temps file. Et on a encore des infos agenda. Mais pour vous dire que le lundi 23 janvier, si vous trouvez que GZ, quand même, c'est trop loin et que vous êtes dans le 7e, comme beaucoup trop de personnes peut-être, vous pouvez aller au Café Rosa à Lyon pour une écoute collective suivie d'une discussion autour du podcast « Quelques raisons de ne pas disparaître ». C'est autour de la dépression, c'est des sujets qui sont peu pensés et problématisés collectivement, ça a l'air super. Lundi 23 janvier à 19h au Café Rosa, le Café Rosa, c'est à côté de la fac.
Au Chevron. Bref, le mardi, il y a le groupe soin consacré au sommeil, c'est à l'Amicale, c'est mardi 24 à 19h et je suis sûr que vous savez où c'est l'Amicale.
Et ensuite, il y a un arpentage. Alors, c'est quand? Oh là là, la date n'est pas... Ah si, c'est la voie, le mercredi 22 février. Attendez, non, le mercredi 8 février, le 22. Bon, on aura l'occasion d'en reparler plus. C'est un arpentage pour parler d'un livre qui s'appelle « Anarchie et cause animale » de Philippe Pelletier, pour parler un peu de d'antispécisme, etc. Et il y a pas le lieu, ou est-ce que je me trompe? Et il faudra chercher les informations, on en reparlera.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu Info du vendredi.
Salut Pierre, ACAB aujourd'hui c'est un peu bizarre, il y a des gens qui nous ont dit que ça voulait dire les annulations par la cour d'appel, bravo, on ne sait pas si on est si content que ça mais on est quand même un peu content, et il y a d'autres gens qui nous ont dit que ça voulait dire annulons la censure et allumons des brèches, finalement on est plutôt d'accord. Et voilà Pierre, et surtout on te souhaite une bonne soirée en écoutant Noise Pollution.
À la semaine prochaine.